BFM Business, midi, l'heure H, l'invité. Audrey Maubert.
Bonjour Thierry Le Hénaff, merci d'être avec nous dans l'heure H. Et vous vous êtes plié bien évidemment vous aussi à l'exercice ce matin, cette publication. Et on voit eh bien, à la lecture de tous ces résultats, l'impact de la crise hein, sur les chiffres du deuxième trimestre, un impact également sur votre chiffre d'affaires par ailleurs.
Oui, bonjour. Effectivement, la crise est passée par là, mais il faut lire les résultats, la qualité des résultats au regard de l'environnement dans lequel nous avons travaillé. Moins 15% sur le chiffre d'affaires, mais qui est relativement atténué par rapport à ce qu'on peut voir dans notre industrie et dans certaines autres industries. Et surtout un résultat net qui est largement positif et une génération de cash qui est record. Donc Arkema paradoxalement ressort de ce deuxième trimestre qui est un peu le trimestre de tous les dangers plutôt en très bonne forme, même s'il faut rester prudent bien entendu sur le développement du Covid et le développement de la macroéconomie sur le reste de l'année.
On va le voir avec vous en détail bien évidemment hein, sur tous les points que vous avez soulevés à l'instant. On voit donc la solidité d'Arkema. Est-ce que ça a été pénalisant ou finalement ça a aidé à être plus solide d'avoir 45% de la production par exemple en France? Est-ce que l'ancrage en France ou alors c'est la diversité des marchés, la diversité des zones qui vous a plutôt soutenu cette fois?
C'est vraiment la diversité. La France, c'est 35% de la production. On est maintenant aujourd'hui très répartis entre les différentes zones, hein, entre l'Asie, entre les États-Unis, entre la France et le reste de l'Europe. Diversité à la fois géographique et très importante dans le monde d'aujourd'hui, puisque chaque pays a des dynamiques très très différentes. Et également diversité marché. Certains marchés ont bien performé finalement de manière un petit peu paradoxale, mais bien entendu le médical en est un exemple, et d'autres marchés ont beaucoup souffert comme l'automobile. C'est vraiment la somme de nos marchés qui nous permet dans ce deuxième trimestre finalement d'avoir une baisse de chiffre d'affaires certes qui est importante, mais en tout cas comme je disais tout à l'heure plutôt raisonnable par rapport à ce qu'on peut voir par ailleurs.
C'est cela en fait, quand il y a une zone géographique qui était pénalisée, par exemple l'Asie en premier lieu, les États-Unis ensuite, eh bien elle était compensée par une autre zone, et pareil pour les secteurs, c'est ce qui a joué dans votre stratégie et dans votre solidité actuelle.
Oui, on a toujours eu une stratégie de diversification, alors géographique. On a toujours gardé l'Europe quand même comme un point solide pour Arkema, même si on en a beaucoup réduit l'empreinte. Mais on est très fort aux États-Unis, on est fort en Asie. La Chine marche beaucoup mieux maintenant qu'elle ne marchait au début du Covid, bien entendu. Et en termes de marché, on a vraiment une compensation des marchés par d'autres. Bon, cela dit, on a quand même beaucoup baissé par rapport à l'an dernier. Mais c'est très mitigé, justement, grâce à cette exposition marché qui est très diversifiée, qui, je pense, est vraiment un des points forts d'Arkema.
Avec ce recul fort, par exemple, hein, sur des secteurs comme la construction, le transport, l'industrie en général, mais sur la construction, là aussi, en revanche, vous avez déjà une visibilité. Vous avez vu qu'en juin, il y avait un retour en progression, une reprise véritable, que ce soit l'Asie ou bien évidemment pour l'Europe.
Oui, c'est très intéressant d'ailleurs, puisqu'on a vu si je prends un métier qui est très fort chez Arkema, qui est les adhésifs, hein, les colles, et les mastiques, qui est lié pour sa moitié à la construction. On s'est aperçu qu'en avril et mai, les adhésifs ont beaucoup souffert. Par exemple, dans des pays comme la France, la construction est en recul de 90%. Donc c'est clair qu'avec un tel recul, les résultats souffrent, même si les adhésifs sont restés largement positifs en termes de résultats. Il faut quand même le souligner sur ces deux mois. Et en juin, par l'effet mécanique du déconfinement, du retour vers les distributeurs professionnels et également vers les distributeurs de bricolage, on s'est aperçu que en fait, les résultats de nos adhésifs revenaient quasiment au niveau de l'an dernier. Donc effectivement, on est sensible dans certains métiers de nos métiers à ce secteur de la construction, et on a vu un effet très très mécanique, et ce qui va permettre d'ailleurs ce secteur de la construction aux ventes du Q3 d'être en recul uniquement à taux constant et à périmètre constant de 10%, ce qui est moitié moindre de ce qu'on a vécu au deuxième trimestre. Donc vous voyez le bénéfice effectivement de cette diversification par marché, de ce positionnement en partie, mais seulement en partie, sur la construction.
Donc avec quasiment sur ce point un effet rattrapage précisément, vous parliez des adhésifs. Et ça aussi, en fait, les chiffres et la solidité à terme de vos résultats, eh bien, montrent, ça c'est finalement, ça vient valider votre stratégie avec cet objectif de recentrage qui était d'ores et déjà engagé. Hein. Par exemple, les adhésifs font partie de votre politique de recentrage.
Oui, tout à fait. Ça a été un pari il y a quelques années, mais un pari qu'on savait gagnant. C'est un métier formidable, qui est encore très fragmenté, sur lequel il y a une grande possibilité de croissance, qui est très résilient dans la durée. Et donc, on a joué cette carte adhésive à fond, pas simplement celle-là. C'est dans le cadre d'une stratégie globale des matériaux. Arkema, c'est de plus en plus une société de matériaux de performance, de matériaux de spécialité. En 2024, on sera un acteur pur des matériaux, on ne fera que ça, que ça soit pour coller les matériaux, que ça soit pour les revêtir, que ça soit pour les alléger. On est présent sur toutes les problématiques, les grandes tendances du développement durable, donc les batteries, on est sur les composites, l'allègement des véhicules par exemple, tout ce qui est impression 3D. Donc on est vraiment présent sur cette modernité du monde qu'on touche par notre innovation. Et donc, c'est sûr que ça nous protège lorsqu'on est dans des univers plus difficiles, parce que notre innovation permet, et cette diversification technologique nous permet justement de pouvoir répondre aux défis du monde d'aujourd'hui.
Donc, d'un côté, c'est le choix de matériaux à forte valeur ajoutée, avec sans doute une marge solide, et de l'autre côté, le choix de l'innovation. Est-ce que là, même si c'était déjà engagé, est-ce que la crise a joué le rôle d'accélérateur, comme on l'a vu dans d'autres entreprises et dans d'autres domaines ?
Alors le premier point, c'était de ressortir de cette crise, même si la crise n'est pas loin d'être complètement finie, en forme. C'est le cas d'Arkema, de façon justement à garder les flexibilités financières, à la fois pour pouvoir investir dans l'innovation, à la fois pour investir sur de nouveaux sites. On a de grands projets industriels, notamment en Asie et à Singapour, par exemple. Et également de pouvoir continuer notre politique d'acquisition. Et donc Arkema, on a les moyens, c'était déjà un prérequis. Et derrière ça, je suis d'accord avec votre déclaration, c'est-à-dire que la crise permet justement d'avoir une accélération d'innovation. Nos clients, pour répondre à la crise, sont de plus en plus friands d'innovation, de rupture technologique. On le voit dans l'automobile, mais dans d'autres secteurs comme le sport, comme l'éolien. Et Arkema a énormément de cartes à jouer grâce à son repositionnement sur les matériaux de spécialité.
Vous avez fait le choix en amont d'une réduction de coûts. Vous vous retrouvez avec une génération de trésorerie conséquente. Là aussi, ce sera un coup de pouce pour affronter les prochains mois. Et quelles sont les perspectives justement pour ces prochains mois ? C'est toujours avec une certaine incertitude.
C'est clair que l'incertitude reste. Alors, on a un peu moins d'incertitude qu'on avait au début du Covid. Je voudrais d'abord rendre hommage à nos salariés, parce que les réductions de coûts, la génération de cash, c'est vraiment au travail et à l'engagement de tous nos salariés. Par rapport aux prochains mois qui se projettent devant nous, nous avons souhaité donner une indication de chiffre d'affaires pour le troisième trimestre, qui montre que même si c'est incertain, on arrive quand même à pas mal contrôler l'évolution du chiffre d'affaires. Donc c'est le fameux moins 10% par rapport à une base qui était élevée l'an dernier, qui a plutôt rassuré les marchés. Hein, d'ailleurs, quand on voit la réponse du cours de bourse d'Arkema aujourd'hui par rapport à un marché qui est quand même globalement rouge. Donc effectivement, il faut rester prudent, il faut rester à l'écoute, il faut savoir que le Covid est encore pas loin et que donc il va falloir vivre avec ça pendant un certain temps. Mais progressivement, on espère rattraper quand même la base de résultats et de chiffres d'affaires qu'on avait pu avoir l'an dernier, grâce à tout le travail qui est fait, notamment celui dont on vient de parler, qui est de réduction de coûts, mais aussi d'innovation sur des secteurs nouveaux.
Et tout ça, ça va se conjuguer avec la poursuite de certaines acquisitions d'un côté, mais cessions de l'autre. Qu'en est-il, parce que c'est revenu sur le devant de la scène, des fameuses activités PMMA, le fameux plexiglas? Est-ce que ce sera bientôt cédé? Est-ce que vous y pensez? Est-ce que ça peut être une vente, comme ça a été déjà évoqué, à 1 milliard d'euros?
Alors, on a été très clair lorsqu'on a fait une journée investisseur, il y a début avril en fait, qu'il y aurait beaucoup d'acquisitions par Arkema, mais également des cessions. Notamment, nous allions explorer la cession du PMMA, qui est un beau matériau, mais peut-être pas tout en haut de la pyramide des polymères, donc de la pyramide des matériaux, contrairement par exemple à un autre matériau d'Arkema, qui est le polyamide 11, qui est un polymère biosourcé, très élevé en termes de performance. Donc c'est un beau matériau, le PMMA, mais pas tout en haut de la pyramide. un matériau plus intermédiaire, moins résilient en termes de résultats que peuvent l'être les matériaux de spécialité d'Arkema. Donc nous avons décidé d'en explorer la cession. On vient juste de démarrer, hein, on a contacté une banque qui va nous aider justement pour pouvoir mener à bien cette cession. Ça prendra un certain temps, mais quand même dans le Covid, hein, donc les choses sont plus au ralenti d'un point de vue cession qu'elles pouvaient l'être avant, mais on est déterminé, on va le faire à notre rythme. Mais en tout cas, ce qui est clair, et on l'a confirmé, c'est qu'on a lancé le processus.
Donc toujours dans cette logique, bien évidemment, de vous concentrer sur les matériaux de performance.
Exactement. Par la croissance organique, on a par exemple un investissement très important à Singapour, près d'un demi-milliard, hein, qu'on va investir à la fois en Singapour, mais sur les régions proches, comme notamment la Chine. Donc en tout, un demi-milliard dans des matériaux biosourcés, c'est énorme. Et derrière ça, les acquisitions. On a fait récemment une petite acquisition dans le domaine des adhésifs, hein, qui s'appelle Fixati, sur des adhésifs à très forte valeur ajoutée. Sur des adhésifs structuraux, donc qui renforcent les matériaux que l'on vient coller. Donc on est vraiment dans une démarche de recentrage, mais qu'on a commencé il y a 15 ans, hein, quand Arkema a quitté le groupe Total. On a eu de cesse de recentrer Arkema vers ce qui était notre projet à très long terme, qui était les matériaux. C'est une vision, on en était très très loin, hein, il y a 15 ans, mais c'est une vision qui s'est définie comme un puzzle, hein, qu'on a comblé progressivement et qui nous permet d'affirmer que dans maintenant 4 ans, donc en 2024, Arkema sera un acteur pur des matériaux de spécialité avec une haute performance et une capacité à croître qui est très très forte. Et pour ça, il faut faire aussi des acquisitions. Et donc, c'est ce qu'on est en train de faire, notamment sur les adhésifs.
Une dernière question, Thierry Lehena. Vous parlez d'investissement notamment à Singapour. Vous êtes ancré, bien évidemment, d'ores et déjà en France. Est-ce qu'on peut envisager sur la thématique, on a beaucoup parlé pendant la crise de relocalisation, de réindustrialisation, est-ce qu'on peut envisager qu'il y ait de nouveaux investissements en France d'Arkema?
En fait, nous, c'est une question un peu paradoxale dans la mesure où on n'a jamais cessé d'investir en France, y compris des investissements de développement. La France représente à peu près un tiers de nos investissements. Donc, on investit entre 150 millions d'euros et 200 millions d'euros par an en France, hein, ce qui est très important. Donc, de ce point de vue-là, on n'a jamais délocalisé. En fait, on suit nos clients. On investit là où il y a de la croissance, et de la croissance, il y en a en Europe. Donc, on continuera avec une croissance équilibrée de nos investissements, que ce soit en Asie, bien entendu, vous avez parlé de ce site qui sera vraiment un projet formidable, mais également aux États-Unis et en France, qui est un peu, quelque part, la plateforme principale pour l'Europe. Bon, pour ça, il faut que la France soit plus compétitive, hein, en termes de coûts. Il y a un certain nombre d'annonces qui vont dans le bon sens, hein, notamment compte tenu sur la CVAE, mais on en attend également des mouvements sur la C3S, notamment pour tout ce qui est exporté. Donc nous, on est prêts à jouer le jeu et à accompagner le développement du site France. On a toujours été très attachés, on est un gros acteur en France, avec notre quartier général qui est en France. On met le savoir-faire français en avant en permanence, mais d'un autre côté, on est aussi un groupe global qui a su, aux États-Unis et en Asie, avoir des positions de leader. Donc c'est ce qu'on va continuer à faire, mais on saura continuer à innover en France. Je voudrais également mentionner que la France est quand même 70% de notre potentiel de recherche et développement, ce qui montre qu'on peut être une société globale, mais une société qui mise beaucoup sur la France pour tout ce qui est technologie.
Merci beaucoup Thierry Lehena d'avoir été dans le RH. Je rappelle que vous êtes le président directeur général d'Arkema. On se retrouve dans un instant. Grosse journée de publication, on le disait, des résultats sanctions sous l'effet de la crise. Dans un instant, on verra que la capitalisation boursière des 100 plus grandes entreprises au monde retrouve son niveau d'avant-crise.
BFM Business, midi, l'heure H, l'invité, Audrey Maubert.
L'invité de l'orage, Philippe Cubiza, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes associé spécialiste des marchés de capitaux chez PwC France et Maghreb. On va revenir en détail sur ce classement, hein, du côté de la capitalisation boursière mondiale. La décorrélation entre des résultats sanctions, fragilisés par le deuxième trimestre, hein, évidemment, grosse journée de publication. Et votre classement, décorrélation quoi entre réalité et marché, la capitalisation boursière totale des 100 plus grandes entreprises au monde en juin se maintient.
Oui, tout à fait. En fait, on a peut-être juste pour rappeler un petit peu ce classement. En fait, on regarde chaque année en fait le classement des 100 plus grosses capitalisations boursières mondiales. On avait réalisé ce classement historiquement, on le réalise au mois de mars hein, et on l'avait réalisé évidemment au 31 mars 2020. Mais compte tenu des éléments, il n'était pas forcément très représentatif. Et donc, on l'a réactualisé au 30 juin. Et effectivement, quand on le compare au 31 décembre 2019, bah, comme vous l'indiquez, on constate effectivement un niveau quasi équivalent. En fait, au niveau du 31 décembre 2019. Peut-être, premier enseignement, peut-être également deuxième enseignement, cette reprise ou ce rattrapage, entre guillemets, est très différente d'un pays, enfin d'une région à l'autre. On a deux régions qui se distinguent. D'une part, les États-Unis, qui ont même en fait dépassé leur niveau du 31 décembre.
Oui, c'est ça. Il y a eu en fait, pour revenir globalement, pour une précision, il y a quand même eu un trou d'air à certaines périodes entre décembre
alors,
et mars.
Décembre et mars, on est à moins 21% hein, sur les 100 plus grosses capitalisations. Donc oui, un gros trou d'air, on peut dire.
Un trou d'air, mais en revanche, il y a eu véritablement un rattrapage et il est net. Vous commenciez à le dire sur les États-Unis.
Exactement. Il est très net sur les États-Unis, hein, puisqu'on termine même à plus 2% par rapport au 31 décembre. Très net également sur l'Asie, enfin plus particulièrement sur la Chine, avec on termine à peu près dans les mêmes niveaux, plus 2%. Alors, sur la Chine, attention, parce que le 31 décembre 2019 intégrait sans doute déjà des effets Covid.
Les effets du Covid,
voilà.
Oui. Hein,
donc, c'est pas forcément comparable, entre guillemets, mais quoi qu'il en soit, l'Asie, enfin la Chine, a retrouvé son niveau du 31 à plus 2%, son niveau du 31 décembre.
Avec cet enseignement, ces derniers mois ont été marqués, c'est le cas encore, par une nette volatilité.
Oui, très forte volatilité, on continue à l'observer, et je pense que les résultats, enfin vous commentiez précédemment les résultats du CAC 40, et on le voit que cette volatilité continue, hein, oui. Que ce soit sur les indices du CAC 40 ou les indices américains, la volatilité est également encore très importante. Peut-être un point sur l'Europe. L'Europe n'a pas complètement retrouvé en fait, son niveau du 31 décembre.
Un peu à la traîne.
Un peu à la traîne, avec moins 3%, donc ce n'est pas non plus quelque chose d'important, mais quoi qu'il en soit, par rapport à la Chine ou aux États-Unis, l'Europe reste quand même en retard.
Il faudra quand même regarder avec précaution et avec attention les résultats de ce premier semestre. Ça pourrait venir doucher la tendance.
Ah, tout à fait, complètement, puisque les résultats, enfin l'étude s'arrête au 30 juin, avant évidemment publication des résultats semestriels. Mmh. Et on le voit, on a des surprises dans les deux sens, avec effectivement, encore une fois, une très forte volatilité des marchés. Donc je pense qu'une mise à jour au mois de septembre sera également intéressante, pour voir effectivement comment, enfin un, si ça confirme en fait cette reprise, voir également les valeurs, qui sont, puisqu'on voit également, on constate également une différence assez forte selon les secteurs, avec une très belle performance des valeurs technologiques.
Oui, c'est peu de le dire, hein, surtout voilà. Aux États-Unis, quand
exactement.
On regarde l'ensemble du classement, le haut du tableau est évidemment trusté par l'ensemble. On met de côté Saudi Aramco, et là, il y a eu le jeu des cours du pétrole, etc., ouais. Bien évidemment, mais en fait, dans le haut du tableau, ben, on va retrouver Apple, on va retrouver Facebook, on va retrouver Microsoft, tous
voilà.
Les géants de la tech américaine.
Exactement.
On a l'impression qu'il y a quand même une bulle qui s'est installée sur les mois qui se sont écoulés. La reprise, elle est passée par la tech aux États-Unis.
Elle est passée par la tech et alors ce qu'on appelle également les services aux consommateurs, donc Amazon, Alibaba, etc., qui ont également quand même très fortement profité en fait de la crise entre guillemets, notamment du passage au numérique d'un grand nombre d'acteurs et du passage au cloud également.
Est-ce qu'on peut dire un mot du phénomène Tesla aussi, parce que là il y a véritablement un phénomène Tesla alors, en matière de capitalisation et d'évolution.
Alors Tesla, effectivement, je crois de mémoire a gagné plus de 40 place hein, donc sur 100 c'est quand même énorme hein. Donc effectivement très belle performance. Votre question, est-ce qu'il y a bulle ou pas, ça je suis compliqué à répondre. Si j'avais la réponse
bah oui.
Ça m'arrangerait, mais malheureusement j'ai pas la réponse. Mais oui, effectivement, on constate une très forte progression, très forte capitalisation, et d'ailleurs ce qui booste un peu des secteurs type industriel hein, puisqu'effectivement en fait quand on regarde la qualification en fait des entreprises, des fois c'est un peu perturbant, parce qu'on a des entreprises qui, par exemple, si on prend PayPal qui est qualifié comme une société industrielle alors que Visa est une société financière, bon évidemment par secteur ça peut un peu troubler la perception, mais Tesla effectivement, enfin ça corrobore en fait ce qu'on entend, effectivement une très forte progression. Bon, à voir effectivement ce que ça va donner dans
sur le long terme. Est-ce qu'on peut dire un mot du poids des entreprises françaises dans le classement ? Alors, on a toujours le phénomène luxe, bien sûr.
Voilà, on a les trois « usual suspects », entre guillemets, hein, que sont LVMH, L'Oréal et puis Sanofi. Ce qu'on peut noter, par contre, c'est que ces trois entreprises ont progressé dans le classement. Donc, c'est plutôt une très bonne performance. Effectivement, deux entreprises du secteur luxe et puis une entreprise du secteur santé qui est également portée, entre guillemets, par les annonces de vaccins et par la crise, entre guillemets, la crise Covid.
Donc, c'est ce poids des entreprises françaises. On retrouve LVMH et L'Oréal. Et là aussi, pour la suite, il faudra nettement regarder. Et ce seront des indicateurs, d'un côté, de l'impact de la crise sur le luxe et sur le modèle luxe, mais également les indices de la reprise.
Tout à fait, tout à fait. Encore une fois, ce constat est réalisé avant publication des résultats semestriels. Alors, d'une manière générale, les marchés anticipent. Alors, des fois, ils anticipent plus ou moins bien et intègrent effectivement ces données-là. Maintenant, on l'a vu hein, au niveau des publications, on peut quand même avoir des surprises et il est clair que ce sont des valeurs à surveiller, surveiller peut-être pas le bon terme, mais du moins à regarder, à suivre dans le long terme.
Mais encore une fois, ce seront pas des valeurs qui seront délaissées entre luxe
non,
et tech.
Non, sont des valeurs quand même qui ont un caractère même défensif entre guillemets. Hein, sont des on a pu d'ailleurs constater sur ce type de valeurs un regain d'intérêt. Puisqu'ils sont un petit peu moins soumis à la volatilité que d'autres entreprises et donc et puis en plus sont quand même des valeurs qui sont assises sur un savoir-faire sur un marché mondial qui est quand même très important.
Merci Philippe Cubisa, je rappelle que vous êtes associé spécialiste des marchés de capitaux chez PwC France et Maghreb. Dans un instant, la suite de l'Orache.